Merci à tous d'être présents aujourd'hui dans des circonstances aussi inhabituelles et inquiétantes, d'avoir bravé le virus pour venir assister au séminaire Flaubert deux jours avant la fermeture de l'UNS. Merci bon, surtout aux intervenants d'aujourd'hui qui ont eu le courage de prendre l'avion depuis l'étranger et prendre l'avion par les temps qui courent, c'est s'exposer à la possibilité de ne pas pouvoir revenir. Donc merci d'avoir pris de tels risques pour venir s'exprimer ici. On va commencer par l'intervention de Tatsushi Yamazaki, qui est maître de conférence à l'université Shukyo.
Non, professeur.
Excusez-moi. Professeur à l'université Shukyo à Nagoya. Ses recherches portent sur la philosophie de Flaubert, notamment dans Bouvard et Pécuchet. Il a publié de nombreuses études sur l'éclectisme, le spinozisme, l'hégélianisme ou encore le scepticisme chez Flaubert. Et la communication qu'il va présenter aujourd'hui s'intitule « Suggestion et médiation du bovarisme au bouvardisme ».
Ça marche. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier Florence Pellegrini et Julie Tazeret de m'avoir invité à cette séance du séminaire Flaubert 2019-2020, Flaubert, médiation, presse, édition, traduction, adaptation. Le titre de ma communication, c'est « Suggestion et médiation du bovarisme et au bovardisme ». Comme le suggère ce titre, ma communication n'est pas grand-chose à voir avec le thème général du séminaire de cette année. Je ne parlerai ni de la presse, ni de l'édition, ni de l'adaptation, encore moins de la traduction. En revanche, pour ce qui est de la notion clé autour de laquelle s'organise ce séminaire, c'est-à-dire la médiation, ou plus précisément les médiations au pluriel, je vais lui accorder une importance particulière dans ma communication. En effet, la médiation est une notion englobante qui puisse envahir une variété de choses, mais on verra tout de suite il s'agit de quelle médiation précisément. Et comment je vais articuler la notion de la médiation avec celle de la suggestion, deuxième élément de mon titre. Articuler la médiation avec la suggestion, mais aussi articuler le bovarisme avec ce que j'appellerais le bovardisme, tel est l'objectif que je me suis fixé. Je vais commencer par citer un passage de Bouvard et Pécuchet, chapitre 8, dans l'épisode du magnétisme animal, à la fin de la scène de la séance publique, où Bouvard et Pécuchet invite les notables du village, y compris le médecin Beaucorbeil, adversaire acharné du magnétisme. Et première citation. Beaucorbeil, à la plus loin, se mettre à l'ombre, les bourgeois le suivirent. Si vous dites à un enfant, je suis un loup, je vais tout manger, il se figure que vous êtes un loup et il a peur. C'est donc un rêve commandé par des paroles. De même, le somnambule accepte les fantaisies que l'on voudra. Il se souvient et n'imagine pas. N'a que des sensations quand il croit penser. De cette manière, des crimes sont suggérés et des gens vertueux pourront se voir bêtes féroces et devenir anthropophages. On regarde Bouvard et Pécuchet, leur science avait des périls pour la société. Fin de la citation. Cet argument du médecin Beaucorbeil pour réduire le somnambulisme artificiel est ce que Flaubert a nommé la théorie de la suggestion dans Les Brouillons. Il y a deux sources documentaires de cette théorie. Premièrement, Louis Figuier, Histoire de Merveilleux dans les temps modernes, publié en 1860. Deuxièmement, Alfred Maury, Le sommeil et les rêves, publié en 1861. Ces deux ouvrages figurent dans le dossier préparatoire intitulé par Flaubert « Mysticisme, magnétisme » composé pour son dernier roman. Dans une page de notre lecture sur l'histoire du merveilleux dans les temps modernes de Louis Figuier, Flaubert a relevé quelques passages concernant la suggestion hypnotique et dans cette page de notre lecture, il y a une notation très intéressante de Flaubert. Citation 2. C'est notre lecture prise sur Louis Figuier, Histoire de merveilleux dans les temps modernes. Mais qui dit que tout n'est pas dans la vie humaine suggéré, par quelqu'un ou par quelque chose? Comment être sûr du contraire? Qu'y a-t-il de vrai? Y a-t-il du vrai? Philosophie nihiliste. Le sommet nerveux sera pour Bubar un argument en faveur du non-être et de l'illusion générale. Fin de la citation. Il me semble que ce passage révèle une certaine conception que Flaubert a forgée de la nature humaine, une espèce de théorie socio-psychologique que Flaubert a élaborée à partir de ses documentations sur le magnétisme. Or, cette théorie me semble déborder largement le strict cadre du magnétisme. On a affaire, sans doute, si j'ose dire, à une certaine anthropologie flaubertienne. J'appellerai cette anthropologie flaubertienne le bubardisme. Le bubardisme consiste à dire, dans la vie humaine, tout est suggéré par quelqu'un ou par quelque chose. Cette nomination, bubardisme, ne manquera pas de vous rappeler le fameux bobarisme. En réalité, ce que j'appelle le bubardisme naît à la fin des fins d'une version complémentaire du bobarisme. Autrement dit, le bobarisme, c'est-à-dire la faculté des parties à l'homme de se concevoir autre qu'il n'est, et le bubardisme, rien n'existe dans la vie humaine qui ne soit suggéré, se présente comme deux thèses complémentaires sur le plan épistémologique, donc par rapport à l'histoire des idées. C'est justement ce que je cherche à démontrer dans cette communication. Mais avant d'aborder l'auteur du bobarisme, il faut passer par plusieurs théoriciens de la suggestion. Commençons par René Girard, auteur de mensonges romantiques et vérité romanesque, auteur le plus proche de nous. N'oublions pas d'ailleurs que René Girard se réfère à Jules de Gautier dès le début de son ouvrage. Citation 3. René Girard, Mensonges romantiques et vérité romanesque, 1961. C'est à Jules de Gautier qu'il faut demander la définition de ce bobarisme qu'il découvre chez presque tous les personnages de Flaubert. Et il cite Jules de Gautier. Une même ignorance, une même inconsistance, une même absence de réaction individuelle semble les destiner à obéir à la suggestion du milieu extérieur à défaut d'une autosuggestion venue du dedans. Fin de la citation. C'est l'unique citation que Girard a tirée du bobarisme dont laquelle Jules de Gautier parle précisément de la suggestion. Citons un autre passage dans lequel René Girard met en avant le concept de la suggestion. Citation 4. Toujours René Girard, mensonge romantique et vérité romanesque. On passe peu à peu des romans de chevalerie au roman feuilleton et au roman moderne de la suggestion collective. Toujours plus abondante, toujours plus obsédante. C'est ainsi que la publicité la plus habile ne cherche pas à nous convaincre qu'un produit est excellent, mais qu'il est désiré par les autres. La structure triangulaire pénètre les moindres détails de l'existence quotidienne. À mesure que l'on descend dans l'enfer de la médiation réciproque, le processus décrit par Cervantes se fait toujours plus universel, plus dérisoire et plus catastrophique. Fin de la citation. Il ne s'agit pas ici d'une relation hypnotique entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé, ni d'une relation normale entre deux individus, mais il s'agit bien d'une suggestion collective, en particulier d'une suggestion littéraire. Quoi qu'il en soit, dans cette ligne, on retrouve deux concepts fondamentaux du désir chez René Girard. D'une part, la structure triangulaire, d'autre part, la médiation. Résumons très sommairement la fameuse théorie girardienne du désir. Si je la résume en amont, je dirais ceci. Notre désir est médiatisé par le désir des autres. Le désir selon autres s'oppose au désir selon soi. Nous désirons ce que les autres désirent, nous imitons les désirs des autres. Le modèle qui dicte nos désirs s'appelle le médiateur. Amadis est le médiateur de Don Quichotte et Don Quichotte est le médiateur de Sancho. Par ailleurs, la distinction que Girard fait entre médiation externe et médiation interne est très, très importante. On parle de médiation externe lorsque la grande distance sépare le médiateur et le sujet. À l'inverse, on parle de médiation interne lorsque cette distance est assez réduite. Chez Don Quichotte, cette distance est la plus grande dans la mesure où aucun contact n'est possible entre Don Quichotte et son Amadis légendaire. Dans Madame Bovary, Emma est moins éloignée de son idéal libresque. Ainsi, Emma se rapproche du médiateur lors du bal de la Vaubyessard, mais ce rapprochement reste tout de même fugitif. Julien Sorel franchit cette distance. Il en est de même des autres personnages principaux chez Stendhal. L'univers stendhalien est un univers dans lequel de multiples médiations internes s'établissent entre les personnages. René Girard souligne la rivalité qui confronte le sujet au médiateur dans la médiation interne. Je cite René Girard, « L'élan vers l'objet est au fond l'élan vers le médiateur. Dans la médiation interne, cet élan est brisé par le médiateur lui-même, puisque ce médiateur désire ou peut-être possède cet objet. » Fin de la citation. La rivalité mimétique provoque des conflits et les conflits suscitent des sentiments négatifs comme la haine, la jalousie et l'envie. Naturellement, la jalousie et l'envie supposent la structure triangulaire, l'objet, le sujet et le médiateur. Le médiateur que le sujet jalouse ou que le sujet envie. Voilà les grandes lignes de la théorie girardienne du désir triangulaire. Revenons maintenant à notre citation. Avec la notion de la suggestion collective, Girard semble introduire une forme particulière de la médiation. Girard, au lieu de parler de la suggestion collective, pourrait parler de la médiation collective. Bref, les deux concepts de médiation et suggestion sont interchangeables. Citation 5. René Girard, mensonge romantique et vérité romanesque. Il faut porter aussi au compte de la suggestion littéraire ces affiches théâtrales que le narrateur dit avidement lors de ses promenades aux Champs-Élysées. Les formes les plus hautes de la suggestion ne sont pas séparées des plus basses. Entre Don Quichotte et les petits bourgeois victimes de la publicité, la distance n'est pas si grande que le romantisme voudrait le faire croire. Il s'agit bien entendu du narrateur de la recherche du temps perdu. Girard pointe ici deux formes de médiation collective. D'une part, la médiation libresque et d'autre part, la médiation publicitaire. Je voudrais introduire ici un passage de Madame Bovary, relativement méconnu, puisque ce passage est supprimé à la dernière minute sur la copie, dans lequel Homais parle de la médiation libresque justement en évoquant le magnétisme et le somnambulisme. Citation 6. Je pense qu'on veut, madame, que la mollesse du lit, lorsqu'on y joint l'habitude de la lecture, peut devenir extrêmement funeste. C'est la veille qui se change en rêve, le rêve en veille. Bientôt arrivent les différents phénomènes de magnétisme et de somnambulisme avec les plus tristes résultats, les plus déplorables conséquences. Et je n'attaque pas ici, notez-le bien, du fond de la chose. Je ne vais pas au cœur du sujet qui serait d'examiner les rapports du moral et du physique et comment la littérature et les beaux-arts se rattachent à la physiologie. Fin de la citation. Mais pourquoi précisément le magnétisme et le somnambulisme? En pré-s'interrogeant, Flaubert aurait pu organiser le discours de Homais sur les mauvaises influences que la lecture peut exercer à la physiologie des lecteurs sans évoquer nullement le magnétisme. L'argumentaire de Homais, en effet, n'est pas du tout clair. Or, elle deviendra tout à fait intelligible si nous la mettons en parallèle avec cet extrait que Flaubert a tiré de l'ouvrage de Alfred Maury, Le sommeil et les rêves, citation 7. C'est une citation que j'ai tirée des notes de lecture de Flaubert prises sur Maury. L'hypnotisé est privé de volition, n'a d'idée que ses reculus sont communiqués par des impressions auxquelles il est soumis, ou directement par la parole de ses interlocuteurs. C'est de la fascination. Suggestion, comme l'enfant auquel vous dites « je suis un loup, je vais tout manger ». La suggestion hypnotique ou magnétique est un rêve commandé par des paroles, des signes correspondants aux sensations à l'aide desquelles on peut provoquer tel ou tel songe chez le dormeur. Il se rappelle quand il croit imaginer, il se soumet quand il croit commander, il sent quand il croit penser. Fin de la citation. C'est le passage qui constitue la source de la théorie de la suggestion, celle que j'avais évoquée au début de cette communication. Il faudrait interpréter le discours tomé à la lumière de la théorie de la suggestion que Alfred Maury combine ici à sa théorie du rêve. Il me semble que Homais, dans ce passage supprimé, voudrait dire que le lecteur peut être hypnotisé par les romans qu'il lit. Le lecteur, plongé en hypnose, n'a d'autre idée que celles qui lui sont communiquées par le roman qu'il est en train de lire. La suggestion libresque ou romanesque est donc un rêve commandé par des paroles. Si l'on reprend la formule de Maury, assimiler le lecteur au somnambule, non pas seulement une lectrice comme Emma, mais le lecteur en général, au somnambulisme, à l'halluciner ou à l'hypnotiser, cela peut paraître bizarre, peu convaincant, un peu exagéré. Je pense évidemment que non. Aucune exagération au moins par rapport à la théorie de Maury. On sait d'ailleurs que Flaubert se réfère à cette théorie depuis la rédaction du Salammbô. Citation 8. Alfred Maury, le sommeil et les rêves, 1861. Il en est de nos actes comme de nos idées. Nous pensons les accomplir en vertu de notre propre détermination. Et cependant, en une foule de cas, nous ne faisons que répéter ce que nous avons vu. Nous imitons sans avoir conscience de l'imitation. La volonté d'autrui se réfléchit dans la nôtre, à notre insu, et nous obéissons en croyant agir de nous-mêmes. Aucun phénomène ne rend plus manifeste cette vérité que le rêve. Tout nous y semble spontané, nous y pensons être libres, et pourtant, nous y sommes conduits sans le savoir par des souvenirs, des impressions internes ou venues du dehors qui se dérobent à nous. Illusion qui n'est pas seulement celle des nuits, mais encore celle de tous les jours. Fin de la citation. On a affaire ici à, je dirais, le somnambulisme généralisé, ce qui revient à dire l'imitation généralisée. Alfred Maury aurait pu ajouter ceci, en une foule de cas, nous ne faisons que répéter ce que nous avons dû. En ce qui concerne l'imitation libresque, je voudrais ici prendre comme exemple les médiums spiritistes que Robert a mis en scène dans l'épisode mystique de Bouvard et Pétuchet, plus précisément dans l'épisode du spiritisme d'Alain Kardec. Un grand nombre de ces médiums ne faisant que répéter devant Alain Kardec ce qu'ils ont lu, surtout ce qu'ils ont lu dans les livres d'Alain Kardec lui-même. À l'inverse, Alain Kardec lui-même ne fait que transcrire les paroles émises par ces médiums. Entre le magnétiseur et le magnétisé, la médiation est réciproque, ainsi que la suggestion. Ce jeu de miroir est un phénomène courant qu'on observe partout dans la littérature magnétique ou hypnotique, surtout dans la littérature spiritiste, dont le personnage principal est appelé justement médium. Mais il faut replacer tout cela dans le contexte épistémologique contemporain à la publication posthume du dernier roman de Flaubert en 1881. La suggestion constitua dans les dernières décennies du XIXe siècle un maître mot dont des doctrines sur l'hypnose, comme celle de Charcot et celle de Bellheim, mais aussi dans la psychologie sociale naissante. Station 9. Gabriel Tarte, les lois de limitation. L'état social comme l'état hypnotique n'est qu'une forme du rêve, un rêve de commande et un rêve en action. N'avoir que des idées suggérées et les croire spontanées, telle est l'illusion propre au somnambule et aussi bien à l'homme social. Fin de la citation. Il est évident que Gabriel Tarte, son cité ici Maury, n'a fait que répéter ce qu'il a lu dans Maury, que Tarte cite à plusieurs reprises dans son ouvrage. Tout se passe comme si Tarte voulait prouver lui-même la véracité de sa propre théorie en imitant Maury de façon inconsciente. Mais il faut bien souligner que Tarte a eu l'audace d'appliquer la théorie de Maury aux relations sociales dans son ensemble. C'est ce qu'il appelle la suggestion sociale universelle. Il précise ceci, cette thèse formulée premièrement en 1884 est accusée d'un paradoxe insoutenable, mais elle est depuis du site. Tarte, si fortement appuyé par Bernheim et autres, et Tarte affirme en 1890, je cite Tarte, actuellement rien de plus vulgarisé que cette vue. Bref, les fameuses lois de limitation ne sont pas autre chose que les lois de la suggestion sociale universelle. Force est de constater que la théorie de la suggestion a joué un rôle non négligeable, un rôle sans doute déterminant dans l'élaboration de la psychologie sociale de l'école française, ce dont témoigne la psychologie des foules de Gustave Le Bon. Station 10. Nous savons aujourd'hui que par des procédés variés, un individu peut être placé dans un état tel qu'ayant perdu toute sa personnalité consciente, il obéisse à toutes les suggestions de l'opérateur qu'il a lui a fait perdre et commette les actes les plus contraires à son caractère et ses habitudes. Or, les observations les plus attentives paraissent prouver que l'individu plongé depuis quelque temps au sein d'une foule agissante se trouve bientôt placé dans un état particulier qui se rapproche beaucoup de l'état de fascination où se trouve l'hypnotisé dans les mains de son hypnotiseur. Fin de la citation. L'hypnotisme, la suggestion, le caractère irrésistible de la suggestion, l'exagération de la force suggestible de l'hypnotiseur, la perte de la volonté, il y a tous les éléments de ce que Flaubert nommait la théorie de la suggestion. Station 11. Toujours du sable de vent, psychologie des feux, 1895. Donc, évanouissement de la personnalité consciente, prédominance de la personnalité inconsciente, orientation par voie de suggestion et de contagion des sentiments et des idées dans un même sens, tendance à transformer immédiatement en acte les idées suggérées. Tels sont les principaux caractères de l'individu en foule. Il n'est plus lui-même, il est devenu un automate que sa volonté ne dicte plus. Fin de la citation. L'automatisme de l'hypnotisé, c'est une thèse soutenue avec force par Louis Fillier, l'un des deux auteurs auxquels Flaubert se réfère par rapport à sa théorie de la suggestion. Ce que illustrent ces extraits notés par Flaubert, c'est que Tarte et Le Bon s'inscrivent dans le même paradigme scientifique que Alfred Maury, Le Fillet et leur lecteur Flaubert lui-même. Encore une fois, posons cette question. Quelle est la thèse centrale de la psychologie sociale à la fin du siècle qui relève du même paradigme que ce que j'appelle anthropologie flaubertienne? Je le résumerai en parodiant le fameux antipit du contrat social de Rousseau. L'homme est né libre et partout il est dans les rêves. J'aimerais aborder maintenant le point d'interférence entre le bobarisme et le baptisme. C'est Dieu de Gautier lui-même qui désigne clairement ce point d'interférence. Une petite parenthèse, il y a deux barbarismes publiés respectivement en 1992 et en 1909. Deux, pardon. Je ne traiterai ici que la seconde version, plus complète. Je laisserai de côté aussi le troisième ouvrage de Gautier consacré à Flaubert, intitulé Le génie de Flaubert, 1813. Station 12. Jules de Gautier, le barbarisme, 1902. Tous ces personnages de Flaubert se ressemblent par un point commun. Chez tous, on découvre un principe de suggestion qui les détermine à la façon des hypnotisés à se concevoir différents d'eux-mêmes. Fin de la citation. Se concevoir différents d'eux-mêmes, dit Gautier. Comme chacun le sait, c'est la définition même qui le donne du barbarisme. Et c'est le principe de suggestion qui détermine le barbarisme des personnages flaubertiens, dit Gautier. Ce qui revient à dire que le principe de suggestion, donc ce que j'appelle le barbarisme, est à l'origine du barbarisme. Mais Jules de Gautier ne s'arrête pas là et il découvre une illusion dans le fondement du principe de suggestion. Station 13. La croyance au libre arbitre remplit à l'égard de l'humanité l'office de cette suggestion. Fin de la citation. C'est ainsi que Jules de Gautier établit l'équivalence entre l'illusion du libre arbitre et le principe de suggestion. La suggestion est à l'hypnotiser ce que l'illusion du libre arbitre est à l'homme normal. Gautier semble vouloir dire même que le principe de suggestion s'enracine profondément dans l'illusion du libre arbitre. Donc d'abord, l'illusion du libre arbitre, d'où dérive la suggestibilité. Gautier précise dans un autre endroit que l'illusion du libre arbitre est une forme du barbarisme. Sa forme normale, sa forme morale, le barbarisme moral. Station 14. Jules de Gautier, le barbarisme moral, illusion du libre arbitre. De cet état profond de la nature humaine, l'un des plus importants est cette croyance sur laquelle toute notre civilisation d'Occident semble fondée. L'homme se croit libre. L'homme se croit libre. Il s'estime pourvu d'un libre arbitre. Fin de la citation. L'illusion du libre arbitre est comme l'illusion des illusions, comme un mythe fondateur de la civilisation de l'Europe occidentale. Telle est la thèse centrale professée par l'auteur du barbarisme. De ce point de vue, il faut rappeler ceci. Si la suggestion a fait l'objet de fortes accusations à travers toute la seconde moitié du siècle, du 19e siècle, c'est parce que, forcément, la suggestion remet en question peut-on mettre en cause ce principe théologico-philosophique qu'est le libre arbitre. En effet, comment peut-on affirmer le caractère irrésistible de la suggestion hypnotique sans dénier en même temps le libre arbitre chez les hypnotisés? C'est là que l'inventeur du concept de barbarisme apparaît comme frère de Bubar et de Pétuchet. Pour constater cette filiation, il suffit de mettre en parallèle ces deux textes, Station 15 et Station 16. Et Jules de Gautier, le barbarisme. Voici donc les hommes en proie à deux forces contraires qui les attirent l'une et l'autre dans des directions différentes. Mais aussitôt, il devient nécessaire que chacun obéisse à la plus forte. Il est également impossible d'imaginer une autre solution ou de prétendre que la force la plus faible l'emporte. Or, cette nécessité ne laisse pas la plus petite place à la liberté humaine. 516, Beauvoir et Petruchet, chapitre 8. Et Beauvoir nia positivement le libre arbitre. Un républicain qui parle contre la liberté, c'est drôle. Beauvoir ne broncha pas et désignant la balance sur le comptoir. Il se tiendra inerte tant qu'un des plateaux sera vide. De même la volonté et l'oscillation de la balance entre deux poids qui semblent égaux figurent le travail de notre esprit quand il délibère sur le motif jusqu'au moment où le plus fort l'emporte, le détermine. Fin de la citation. Mais cette filiation deviendra encore plus indéniable lorsque Gautier rend compte d'une autre illusion, illusion plus originaire encore, selon lui, que celle du libre arbitre. Station 17. Jules de Gautier, le Beauvoirisme. La croyance au libre arbitre n'est toutefois qu'une conséquence elle-même d'une autre illusion plus profonde et qui l'explique en partie. L'illusion de la personnalité, la croyance à l'unité du moi. L'homme composé est résultant d'instincts et de moments multiples se conçoit un. Fin de la citation. L'illusion de la personnalité ou l'illusion de l'unité du moi est donc la véritable illusion originaire qui en engendre toutes les autres, y compris celles du libre arbitre. Ce passage nous renvoie forcément à la discussion entre nos deux bonshommes sur l'âme humaine. C'est Beauvoir qui s'en moque, station 18. Beauvoir et Petruchet, chapitre 8. Mais sous quelque chose, cette âme demeure identique sous les changements du dehors. Donc, elle est simple, indivisible et partant spirituelle. C'est la parole de Petruchet. Et Beauvoir répond, « Si l'âme était simple, répliqua Beauvoir, le nouveau-né se rappellerait, imaginerait comme l'adulte. La pensée, au contraire, suit le développement du cerveau. Quant à être indivisible, le parfum d'une rose ou l'appétit d'un lieu, pas plus qu'une volition ou une affirmation, ne se coupe en deux. » Fin de la citation. L'appétit d'un lieu est aussi indivisible que l'âme humaine. Autrement dit, l'âme humaine n'est pas moins divisible que l'appétit d'un lieu. N'est-ce pas là la comparaison beauvoirienne par excellence? Dans l'extrait cité, Jules de Gautier affirme que l'homme est essentiellement composé d'instincts et de moments multiples, et pourtant, l'homme se conçoit indivisible, identitaire et unitaire. Si l'homme est quelque chose de composé, tous les objets dans l'univers du roman encyclopédique le sont également, à commencer par la crème baptisée par Beauvoir, la Beauvoirine. La Beauvoirine, la crème extrêmement composite, symbolise en quelque sorte le Beauvoirisme entendu comme l'illusion de l'unicité ou d'identité personnelle. Quoi qu'il en soit, en pointant deux illusions fondamentales, Jules de Gautier se rapproche beaucoup de nos deux personnages, du même que le Beauvoirisme et le Beauvoirisme apparaissaient comme l'ombre et la mère d'une même conception. Je terminerai ma communication en revenant à la théorie girardienne du désir, à la théorie de la médiation. Station 19. Madame Bovary. Pour lui plaire, comme si elle vivait encore, il adopta ses prédilections, ses idées. Il s'acheta des bottes vernies, il prit l'usage des cravates blanches. Il mettait du cosmétique à ses moustaches. Il souscrivit, comme elle, des billets à autres. Elle le corrompait par-delà le tombeau. Et deux petites stations. Pourquoi étiez-vous si belle? Est-ce ma faute? Oh mon Dieu! Non, n'en accusez que la fatalité. C'est la faute de la fatalité. Fin de la citation. Charles imite Emma, mais aussi Charles imite Rodolphe, qui séduit Emma. On assiste là à la réalisation d'une forme particulière du désir triangulaire. Désirer Emma à travers Rodolphe, et simultanément désirer Rodolphe à travers Emma. Cela dit, Charles du seul représente, ou bien incarne, les trois termes du désir triangulaire, à la fois le sujet, le médiateur et l'objet. C'est sans doute la raison pour laquelle Charles n'est finalement ni jaloux, ni envieux. En effet, de ce point de vue, il est vraiment logique à Charles de copier la parole de Rodolphe pour mettre fin à la rivalité mimétique infernale. C'est la faute de la fatalité. Un tel pistacisme peut paraître ridicule, grotesque, comme le pense effectivement Rodolphe. Mais moi, je crois au contraire qu'il est sublime. Tout se passe comme si Charles avait enfin compris cette vérité. L'homme est né libre et partout il est dans les rêves, dans l'inconscient, si bublé, dans la fatalité. En tout cas, avec cette révélation, il me semble que Charles est plus que jamais libre. Mais il lui reste de satisfaire son ultime désir mimétique, désirer la mort à travers Emma, et simultanément désirer Emma à travers la mort. Je vous remercie.
Merci beaucoup à Tsuchi pour cette belle communication qui choisissait donc de prendre au sérieux la notion de médiation et de faire de Flaubert finalement un penseur de la médiation, du médium, oui. Du médiateur, les personnages étant finalement agis par des discours extérieurs comme les hypnotisés par le discours de l'hypnotiseur. Donc tu as bien montré finalement comment tout cela impliquait une sorte d'illusion généralisée qui repose sur l'illusion fondamentale du libre arbitre, de la spontanéité finalement et de l'originalité. Alors la question que je voudrais peut-être te poser pour lancer le débat, est-ce que tu penses du coup que la philosophie finalement de Flaubert s'en tient là finalement à cette négation du libre arbitre ou indique quand même les voies d'une libération en pointant justement ce phénomène de la médiation.
C'est-à-dire, tu veux parler de la philosophie de Flaubert lui-même, c'est ça ?
Oui, dans son écriture finalement, est-ce que c'est si désespérant que ça au bout du compte, cette vision d'une humanité complètement somnambule ?
Oui.
Ou est-ce qu'il y a quand même une possibilité de sortir de ça ?
Oui, sa philosophie, je ne sais pas, mais j'ai tendance à dire que faire une distinction très nette entre la philosophie de Flaubert lui-même et puis la philosophie mise en scène dans Beauvoir et Pécuchet. Mais de toute façon, dans les années 1870, Flaubert a tombé dans un scepticisme assez grave. Mais c'est en partie à cause de sa lecture de Kant. Mon hypothèse, c'est que Flaubert a pris au sérieux Kant. Et puis, comme vous le savez, peut-être dans la seconde moitié du 19e siècle, Kant apparaissait comme un philosophe sceptique par excellence, c'est-à-dire l'éclectisme a dénoncé la philosophie de Kant, accusé la philosophie de Kant d'être frappée par le scepticisme, quelque chose comme ça. Et puis, depuis la rédaction de la version finale de la tentation de Saint-Antoine, Flaubert peut-être rejoint un petit peu le scepticisme de Kant. Donc Flaubert a vraiment pris au sérieux la philosophie après Kant. Alors que Cousin et ses disciples se trouvent justement avant Kant. Mais dans ce contexte-là, peut-être, on peut parler peut-être de la mise en cause, de la mise en doute peut-être de l'unicité de la personnalité. Et Flaubert a vraiment peut-être a produit ce scepticisme, surtout dans la figure de Bubar. Mais de toute façon, comme je t'ai dit tout d'abord, je voudrais faire une distinction plus ou moins nette entre la philosophie de Flaubert lui-même et puis la philosophie devenue romanesque, la philosophie qui a pris la forme romanesque. Voilà. Mais une autre petite chose, mais peut-être lorsque Flaubert parle des idées reçues, peut-être Flaubert est assez conscient que du fait que les idées reçues sont aussi des idées suggérées, surtout par les bourgeois, par des bêtes. Voilà.
Mais est-ce que justement le fait de représenter l'idée reçue, de représenter justement ces médiations-là, c'est pas un moyen quand même de proposer une pensée originale malgré tout, et du coup d'indiquer les voies d'une libération par rapport à cette aliénation
Libération, peut-être que Flaubert n'est pas aussi optimiste que ça. Flaubert est trop sceptique, et Flaubert est un quelqu'un et qui reste quand même dans la caverne. C'est vrai que dans la jeunesse, Flaubert est un petit peu platonicien, c'est-à-dire que lecture de Platon traduit par Cousin. Donc, Flaubert, dans la correspondance de Flaubert, on retrouve toujours l'idée au minuscule. Donc, Flaubert vraiment est, dans sa jeunesse, un petit peu adepte du platonisme, d'une certaine forme du platonisme. Mais en même temps, Flaubert, même dès sa jeunesse, est lecture de Montaigne. Donc, Flaubert, dès le début, sceptique, mais au fil du temps, cet aspect de l'idéalisme s'est effacé au profit du scepticisme. Donc Flaubert est vraiment, à la fin de sa vie, vraiment sortir de la caverne. Flaubert ne le pense pas comme ça, comme moi.
Est-ce qu'il y a des questions?
Donc on est prisonnier de la caverne. Que sont des idées reçues? Voilà.
François?
Oui, monsieur, je vous remercie beaucoup de cet exposé qui m'a beaucoup intéressé. Je me demandais si, dans ces années 1860, au tout début du XXe siècle, période à laquelle appartiennent les textes que vous avez cités, les grands débats classiques, texte classique au sujet du libre arbitre, au sujet des passions, au sujet de la circulation des émotions, au sujet des perceptions comme origine des pensées, donc éventuellement en réalité une sorte d'osmose générale entre les objets vivants ou non. On est tourné, je pense donc au texte de Locke, de Descartes, de Spinoza, et puis à toute la tradition sensualiste anglaise et française qui est très intéressante aussi. Ces textes sont lus et sont considérés comme des classiques dans la première moitié du 19e siècle, aussi bien Stendhal que Balzac, par exemple, les connaissent. Là, l'impression que j'ai, c'est que c'est plus tellement lu et que le discours de Gautier, à mon avis de René Girard aussi, la mieux partager. En fait, la phrase ne s'arrête pas là. Je ne sais plus exactement, je ne connais pas la citation exacte pour la suite, mais il y a un point virgule, et derrière le point virgule, en fait, on s'aperçoit que cette phrase est ironique. Hein. La preuve, c'est que tout le monde pense disposer, tout le monde pense avoir tout son bon sens. Et si on devait, si les gens devaient imaginer se priver de toutes leurs compétences, enfin, à coup sûr, il y en a une qui garderait en propre, c'est le bon sens. Et évidemment, le philosophe doute de cela et propose une méthode. Vous voyez, cette panique, devant les médiations, toutes les influences qui pourraient nous priver de liberté, je me demande si elle n'est pas relative à une sorte de cartésianisme fantasmé, de théorie en fait non fine, beaucoup moins fine que Descartes, et alors a fortiori que Spinoza et les sensualistes, de ce que c'est que la liberté. Enfin, quant à Kant sceptique, ben, c'est vraiment pas un sceptique, Kant. Hein, donc c'est vraiment un gros contre-sens.
Ah, d'accord. Mais vous pouvez peut-être formuler l'essentiel de votre question. Et je ne sais pas.
C'est pas vraiment une question, c'est une réaction. C'est-à-dire, je me dis. Enfin, s'il y a une question, c'est la suivante. Est-ce que, au moment où il fait les lectures de Maurice, est-ce que Flaubert se plonge aussi ou retourne aussi à relire, s'il les a lus déjà d'ailleurs, que j'ignore, Locke, Spinoza, Descartes ou des mises au point sur ces débats. Sur ces débats, c'est à peu près quand même 150 ans de philosophie qui s'occupe de 150 ans. Mon impression, c'est ma deuxième question, mon impression c'est que non, c'est que c'est plus pris au sérieux dans la deuxième moitié du siècle. Je pense que ça va faire un retour chez les phénoménologues, par exemple, chez Freud aussi. Et j'ai l'impression qu'on est là dans une sorte de parenthèse.
D'accord, d'accord. Donc, par rapport à la problématique du libre arbitre, Robert n'a pas du tout lu ni Descartes, ni Locke, sauf Spinoza. Bien sûr, Robert est un grand lecteur de Spinoza, mais de toute façon, Flaubert a lu et peut pouvoir répétitionner une quarantaine d'ouvrages philosophiques, mais dont la plupart a été écrit par les éclectiques. Donc, à travers les textes des philosophes éclectiques, Flaubert s'est formé de la problématique du libre arbitre formulée par les philosophes classiques. Mais de toute façon, la documentation flaubertienne est toujours, disons, de la seconde main. Mais dans ce contexte-là, Flaubert était très intéressé par les dogmes de l'éclectisme, comme Cousin et Dufroy, et Cesset et quelques autres philosophes. C'est qu'il y a trois dogmes principaux de l'éclectisme. C'est d'abord les causes finales. Le dogme des causes finales et deuxièmement le libre arbitre. Troisièmement, c'est la personnalité. Donc tous les discours qui sont entrés en contradiction avec ces trois dogmes sont Cousin et ses disciples et critiqués très sévèrement et tout ce type de discours. Et Flaubert a vraiment, à collectionner ce type d'argument contre l'éclectisme pour mettre tout cela en scène dans Beauvoir et Pécuchet. Et à propos du libre arbitre, Flaubert est très influencé par Spinoza lui-même, surtout l'éthique du premier chapitre du 2. Donc, dans l'apprentice du premier chapitre, Flaubert, comme vous le savez sûrement, a développé un argument très très serré qui critique le libre arbitre. Donc Robert, depuis sa jeunesse, était très très attentif à cette querelle autour du libre arbitre. Et à propos de la querelle sur le libre arbitre, je vous ai cité tout à l'heure le texte dans lequel Bobard a parlé de la balance. C'est la source documentaire de ce petit texte, c'est Schopenhauer. Schopenhauer. Le texte s'appelle justement Le libre arbitre, qui est publié en 1878. Flaubert est mort en 4 mois. Donc 2 ans avant sa mort, Flaubert a pris des notes sur le libre arbitre de Schopenhauer. Et Schopenhauer, bien sûr, a été fortement influencé par Spinoza. Donc Flaubert a retrouvé dans Schopenhauer, comment dire, l'argument de Spinoza. Donc tout ça voudrait dire que la seconde partie du chapitre 8 est consacrée à la philosophie et se place sous le signe de Spinoza. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans ma thèse.
Il est traduit en français dans les années 70, mais il écrit sous l'Empire. Hein, il écrit sous le premier, je veux dire. Hein, donc il appartient à une toute autre époque de la pensée, en réalité.
Oui, oui.
Une lecture complètement décalée. Et enfin, bon, quand même, chez Spinoza, il y a quand même, enfin, dans l'éthique, il y a quand même 5 livres, si je me souviens bien. Quand même la possibilité d'avoir des idées adéquates. Enfin, c'est bien l'objet est bien de s'émanciper. Enfin, l'objet du livre est bien finalement relativement comparable à l'ambition de Descartes. Simplement, l'analyse de ce que c'est que l'univers et l'être humain est complètement différente. Mais la démarche est comparable. Donc, on ne peut pas résumer la philosophie de Spinoza.
Finalement, enfin, si j'ai bien compris ton intervention, toi tu rapprocherais finalement davantage Flaubert du schopenhauerisme de ce point de vue, c'est-à-dire du côté pessimiste.
Oui, oui,
voilà.
C'est ça.
Tandis que Spinoza offre quand même une forme d'optimisme dans la mesure où il y a une possibilité effectivement d'émancipation dans la connaissance.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Donc ce serait ça pour toi finalement, Flaubert, c'est plus Schopenhauer.
Oui, c'est ça. Et dans la lecture de Spinoza, et surtout et par rapport à Bobard, Flaubert est, comment dire, est resté dans le premier chapitre. C'est ça?
Ouais.
C'est ça? À propos du socialisme, peut-être dans le contexte épistémologique, ce qui est important, c'est le cours de 1818 de Victor Cousin, intitulé « Du vrai, du beau et du bon ». du bien. Et c'est ça. Donc, dans ce cours, Victor Cousin est vraiment à essayer de se démarquer du socialisme. C'est-à-dire que Condillac a formé la première adversaire contre laquelle Victor Cousin a défini sa propre philosophie. Et après la chute du règne de Victor Cousin, c'est-à-dire que ça s'est passé en même temps, 1848, Taine se réclame de Condillac. Et bien sûr, à cause de Cousin, que Taine n'a pas pu soutenir sa thèse. Et c'est une grosse histoire qui est autour du milieu du 19e siècle. Donc Taine a représenté vraiment l'ennemi numéro un du cousinisme et de l'éclectisme. Or, Robert est très ami, non pas uniquement de Alfred Maury, mais aussi de Taine. Donc, Taine et Maury et Flaubert forment, comment dire, une filiation vraiment philosophique qui s'oppose fortement à l'éclectisme cousinien.
Enjeu politique aussi, parce que
Bien sûr.
Cousin, c'est le philosophe officiel de la
Mais
monarchie.
oui, Cousin a détrôné quand même en 1848. Et Taine a enterré vraiment le cadavre de Cousin. Ouais.
Mais ce faisant, sans le savoir, ou d'une certaine manière, il sert la soupe, enfin il prépare en quelque sorte aussi une forme de récupération qui est celle de Tarde, Le Bon, qui sont des penseurs, enfin dont la psychologie sociale est un déchiffrement bourgeois aussi de la société qui tend finalement à éliminer la question sociale, justement la question des classes, la question, enfin c'est une philosophie de la déréalisation de la société.
Des réalisations de la société,
Voilà.
d'accord.
Et ce faisant, c'est aussi une pensée finalement politiquement qui s'apparente à une forme de collusion avec les intérêts bourgeois. Et donc là, je ne suis pas sûr que Flaubert, enfin je pense que le texte flaubertien ne peut pas se... Enfin, il y a une récupération du texte flaubertien à des fins aussi sociales, sociologiques, politiques, mais je suis sûr qu'on peut trouver dans ce texte même une résistance, des points de résistance à cette récupération. Il est à la fois anti-bourgeois, enfin, contre une certaine pensée bourgeoise, mais ce faisant, préparant la relève d'une certaine façon vers une autre orientation de la pensée bourgeoise, mais que son texte, à certains égards, met en péril ou rend impossible.
D'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ce n'est pas une question. Non? Non?
Non,
Non.
Méditation.
Mais ça semble aussi cohérent avec ce que tu disais de Charles, quand tu disais que finalement Charles était libre.
Ouais,
Et que
ouais.
du coup, en énonçant c'est la faute de la fatalité, il fait la preuve de sa liberté. Donc il y a quand même une possibilité d'une libération justement peut-être de ceux qui sont les plus écrasés dans l'histoire.
Oui.
Comme Charles.
Oui. Mais Alexandre m'a donné plusieurs pistes à suivre, peut-être. Donc, dans les années, tout de suite après la publication posthume de Bouvard et Pécuchet, comment on comprenait, on interprétait ce texte en termes politiques? C'est une question vraiment intéressante, mais en termes philosophiques, il n'y a aucun écho. C'est très bizarre que dans le bobarisme, Jules de Gaulle n'a pas du tout parlé de Bobard. Mais en revanche, dans le troisième bouquin consacré à Flaubert, le génie de Flaubert, Jules de Gaulle a consacré pas mal de pages à l'analyse de Bobard-Pécuchet. Mais de toute façon, à la fin du siècle, comment on a interprété Bouvard et Pécuchet en termes à la fois philosophiques et politiques. C'est une belle interrogation. Je vais peut-être essayer de travailler encore plus.
On va s'arrêter là pour cette première communication et on va enchaîner sur celle de